Europe 1, 15h, 16h, il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Isabelle Morizet.
Il s'était fait un nom jusqu'à Hollywood. Michel Legrand nous a quittés la nuit dernière à l'âge de 86 ans. Europe 1 prolonge son hommage en vous proposant d'écouter une ancienne émission d'Isabelle Morizet. Une conversation qui, on l'espère, vous réjouira. Nous allons remonter le temps jusqu'au 13 juillet 2003, elle recevait Michel Legrand à l'occasion de la sortie de son album Michel Legrand. Par Michel Legrand, il évoquait son enfance, sa passion pour le jazz, ses collaborations musicales. Une pépite pour nos oreilles. Bonne écoute à tous.
Bonjour à tous et à toutes. Je reçois ce matin un compositeur de légende, Michel Legrand, avec plus de 200 musiques de films à son actif, 3 Oscars, 5 Grammy Awards et une ribambelle de chansons éternelles interprétées par les plus grands musiciens et chanteurs de la planète. Michel Legrand est devenu le plus américain des compositeurs français. Sa vie est une partition palpitante. Et bien ce matin, nous allons la jouer ensemble. Vous êtes d'accord, Michel Legrand ?
Oui, bonjour, bien
bonjour.
Sûr. Oui, oui, bien sûr, absolument d'accord. Allez-y, je vous suivrai.
Parfait. Alors, je vais commencer tout de suite par cette question. Vu la famille dans laquelle vous avez vu le jour, il était pratiquement impossible d'échapper à la musique, n'est-ce pas ?
Écoutez, c'est difficile à dire parce que c'est vrai, mon père était musicien. Et mon père était passionné de musique. Il n'avait pas eu la chance d'avoir étudié la musique longtemps. Et c'était un self-made bonhomme. Mm-hmm. Il est parti acheter des allumettes quand j'avais 2 ans et demi. Il est revenu quand j'en avais 19.
Ça lui a pris du temps.
Vous savez, à l'époque, les allumettes étaient très difficiles à trouver. Donc, alors je ne l'ai pas connu petit garçon, mais il est venu me récupérer, si j'ose m'exprimer ainsi, quand j'étais au conservatoire, que j'étais un élève dont les gens parlaient un peu comme ça, c'est celui que. Alors là, il dit, tiens, c'est mon fils, je vais le rechercher. Donc, sa passion était telle que, au frère de son ex-femme, de ma mère, il a tellement parlé avec passion qu'ils sont tous devenus musiciens. Sans technique, mais musiciens.
Mais votre oncle, Jacques Elian, était un chef d'orchestre fameux de l'époque.
Non, il a été célèbre, mais il n'était pas musicien. Je veux dire, il jouait de rien, il ne connaissait pas la musique, il était simplement... il faisait une bonne prestation en scène, mais de la musique, il n'en écrivait pas, il n'était pas musicien.
Votre maman dirigeait,
oui,
je crois,
bien sûr,
des éditions musicales.
Elle n'était pas musicienne non plus. C'était toujours la passion de Raymond Legrand, mon père, qui a pratiquement forcé tout le monde à crapahuter dans la musique. Je dis bien crapahuter parce qu'ils n'étaient pas musiciens du tout.
Y compris vous, alors que pourtant, il avait pris le large.
Oui, attendez, mais voilà. Moi, à l'âge de 3 ans, je m'ennuyais tellement. J'étais un petit garçon tout seul. Ma mère était obligée de travailler, la pauvre chérie. Donc, elle partait tôt le matin, elle allait tard le soir. Et je m'ennuyais chez moi, je détestais le monde des adultes, je détestais le monde des enfants, qui était beaucoup trop cruel. Et heureusement, mon père, en partant, avait laissé un vieux piano à la maison. Alors ce vieux piano a été mon seul ami pendant des années. Ma mère, intelligemment, me voyant ne faire que ça toute la journée, elle a commencé à me faire donner des leçons, et puis on m'a enfin placé vraiment dans une bonne direction. Et puis ensuite, j'ai rencontré un professeur, deux professeurs, trois, et puis quatre, et puis bon, j'ai avancé, j'ai travaillé.
Lorsque vous dites bonne direction, Michel Legrand, je vous interromps, il s'agit carrément du Conservatoire National de Paris.
Oui, avant, c'est-à-dire que, voilà, comme j'ai commencé très très tôt, j'étais très très en avance dans mes études musicales. C'est-à-dire qu'à l'âge de 10 ans, si vous voulez, j'étais à peu près au niveau de quelqu'un qui en avait une quinzaine, 15 ou 16. Donc je suis rentré au Conservatoire avec des licences spéciales à 10 ans, parce que 10 ans, c'est trop tôt, on n'a pas le droit d'entrer. Donc je suis rentré à 10 ans, et de 10 ans à 20 ans, pendant ces 11 années, j'ai eu la chance de beaucoup travailler avec des professeurs magnifiques, avec des gens passionnés qui m'ont vraiment appris la musique et la vie.
Dont la très fameuse Nadia Boulanger.
Dont Mademoiselle Boulanger, qui a été mon mentor et qui a été la femme que j'ai la plus aimée et la plus détestée pendant toutes mes études. Vous savez, c'est dur parce qu'elle était tellement rigoureuse, tellement exigeante, tellement que... Il y a des matins où j'aurais voulu l'égorger.
À 12 ans, il paraît que vous avez obtenu le premier prix de solfège supérieur du Conservatoire National de Paris,
oui,
n'est-ce pas
rien,
à 17,
début,
le premier prix d'harmonie. Et autour de vous, on voulait absolument que vous vous dirigiez vers le prix de Rome. Or, c'est Nadia Boulanger...
Oui.
Qui vous l'a interdit? Pour quelle raison?
Bien sûr, vous savez, parce qu'à la fin de nos études, il est normal que étudiants, je veux dire, dirigés comme des bacheliers, enfin, à la fin de nos études, c'était le prix de Rome qui représentait la plus haute récompense musicale. Moi, je voulais me présenter, mais Nadia Boulanger m'a dit, mon petit, je t'interdis, tu te présentes à la prix de Rome. Alors, je dis, mademoiselle, bon, pourquoi? Elle me dit, pour deux raisons. La première, C'est que c'est jugé par les membres de l'Institut. À l'Institut, il y a, les chefs de sont faux, mais il y a 85 peintres, 74 architectes et 3 musiciens. Et les 3 musiciens sont des gens qui ont passé 100 ans, qui sont aveugles, qui sont sourds, qui n'ont plus aucun jugement, donc tu ne te présenteras pas, tant qu'ils n'auront pas changé. Puis la deuxième raison, c'est qu'ils te demandent d'écrire des œuvres pour orchestre et ils les jouent au piano. Alors comment veux-tu que des gens qui ne sont pas musiciens du tout, qui sont peintres, quelquefois mauvais, souvent architectes, inemployés, comment veux-tu que ces gens-là puissent juger d'une partition bonne ou mauvaise ? Donc tu ne te présentes pas. Par contre, me disait-elle, tu as le droit à tous les concours de Rome d'aller avec des boules puantes et des crécelles du poil à gratter à aller manifester ton mécontentement.
La grande Nadia Boulanger parlait ainsi.
Tout à fait. Et tous les ans, je suis allé avec les boules puantes, avec les crécelles et tout ça. On s'est fait jeter dehors et on finissait au poste selon les ordres de notre professeur.
Dites-moi, Michel Legrand, à l'époque, donc, puisque là on évoque votre adolescence, il n'y avait que la musique classique qui caressait vos tympans.
Oui. C'est-à-dire que moi j'étais déjà passionné par le jazz, car aussitôt après la guerre, pendant l'occupation, le jazz était interdit. Enfin, donc on l'écoutait pas. Le jazz américain était interdit. Mais aussitôt après la guerre, il y avait des orchestres et une nouvelle forme de jazz, c'est le bebop. Et en 1947, j'ai eu la chance d'assister au double concert de Dizzy Gillespie et son orchestre qui était venu à Playel. Et j'étais présent et je ne comprenais rien. Je trouvais ça sublime, extraordinaire. Et vraiment, de ce moment-là, le jazz est entré en moi et pour toujours. Et j'en ai joué, même à la classe de Nadia Boulanger. Elle détestait ça, mais rien que pour l'ennuyer, pour manifester ma colère. Je jouais du jazz comme ça. Ben arrête !
Dizzy Gillespie, donc, fut une révélation. Il paraît que vos premiers arrangements, c'est pour lui que vous les avez signés.
Oui, j'ai eu la chance dans les années 50, parce que moi j'ai commencé à travailler dans les années 52-53, j'étais une espèce d'orchestrateur un peu célèbre, comme ça, quand je faisais des choses très audacieuses, je revais dans tous les sens, c'était des orchestrateurs comme personne n'avait fait auparavant. Donc j'étais très demandé pour faire ça, et j'ai commencé à travailler avec Dizzy Gillespie, j'étais le pianiste, j'étais le directeur musical de Maurice Chevalier, j'ai fait tous ses concerts, ses orchestrations. C'est lui qui m'a emmené à New York pour la première fois, en 1956. J'ai travaillé avec Henri Salvador, avec Jacqueline François, avec Edith Piaf. Enfin, vous voyez, tous ces gens-là, j'étais leur orchestrateur.
Donc vous étiez sorti du paysage un petit peu rigide de la musique classique.
Oui, tout à fait. Même.
Porté par votre curiosité.
Oui, tout à fait. Oui, et puis porté surtout par le besoin de bouffer, de vivre. Je veux dire, en sortant du conservatoire, moi, je voulais faire des concerts classiques avec mes amis, flûtistes. On voulait jouer de musique de chambre un peu partout, mais personne ne nous connaissait, donc on était engagé nulle part. Par contre, avec la technique que j'avais, j'étais tout de suite engagé par Salvador, des gens qui ont besoin d'accompagnateurs. Alors, comme je jouais déjà du jazz et tout ça, de ce qu'on appelle la variété, j'ai tout de suite commencé à travailler et à gagner ma vie avec.
La suite de cet entretien, Michel Legrand au micro d'Isabelle Morizet en 2003, ce sera dans un instant sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie sur Europe 1.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie. Cet après-midi, rend hommage à Michel Legrand. On le retrouve dans un entretien avec Isabelle Morizet datant du 13 juillet 2003.
Vous étiez fasciné, je le sais, à l'époque par les États-Unis et surtout la musique générée l'Amérique. Mais effectivement, c'est Maurice Chevalier qui vous a emmené à New York. Oui, vous n'avez pas suivi les jazzmen de l'époque. Vous pouvez nous raconter cette aventure ?
Écoutez, oui.
Comment Momo vous a-t-il embarqué ?
Je travaillais pour Chevalier et alors il faisait à New York une émission spéciale à la télévision à NBC d'une heure. C'était un show qui était consacré. Et il m'avait demandé, il dit, voilà, mon cher Michel, je voudrais que dans mon show d'une heure, vous veniez, vous fassiez une section de 7 à 8 minutes. J'avais un disque à l'époque que j'avais fait qui s'appelait I Love Paris, qui était un gros succès aux États-Unis. Ils avaient vendu quelques millions, donc je me connaissais un peu. Et il me dit, on va vous exécuter une partie de ce disque. Donc j'arrive à New York, moi pour la première fois je découvre ce pays où tous mes amours de jazz étaient là. Je passais mes nuits entières au Birdland où il y avait Miles, les High Lows, il y avait Phil Woods, il y avait enfin, tous ces immenses musiciens qui jouaient là tous les soirs. Je passais mes nuits dans la boîte de nuit, je répète le show. On fait le show avec moi à Chevalier. Et je dis à Chevalier, bon, écoutez, cher Maurice, maintenant vous allez me passer de moi car je reste ici. Je suis à New York. Je viens de découvrir l'endroit où je vais vivre. Merci beaucoup. Au revoir. Rien du tout, me dit-il. Il dit, mercredi prochain, on a un concert. Je dis non. Il me dit si. Il me dit, on a un contrat ensemble. J'ai dû quitter New York après seulement 15 jours de... Forcé, obligé, mais je suis retourné très vite après.
Vous y êtes retourné très vite, et lorsque vous y êtes retourné d'ailleurs, ça a été pour diriger les séances de Miles Davis et John Coltrane. Vous aviez à peine 26 ans, comment êtes-vous tombé dans cette aventure-là ?
Ben écoutez, voilà, j'avais fait pour les Américains un disque appelé I Love Paris, qui a été un énorme succès. Pour ce disque, j'étais un jeune orchestrateur français, payé très peu pour le faire. Je crois que j'avais reçu 200 dollars, pas de royalty et absolument rien. C'est-à-dire, ce qu'on appelle un flat fee en anglais. Alors moi, j'étais ravi, parce que pour moi, c'était un tremplin de faire une chose. Et ce disque, par extraordinaire, ils en ont vendu des millions. Les gens de la Colombie pour qui j'avais fait ça m'ont dit, écoutez, le grand voilà, vous avez fait un disque, on ne vous a pas payé, vous ne touchez pas un centime sur les ventes et tout ça, alors voilà, on va vous faire un cadeau. Vous allez nous dire le disque que vous voulez faire et on vous le paye.
C'est possible, une chose pareille.
C'est arrivé. Alors, je dis, voilà ce que je veux faire un disque de jazz avec Miles Davis, John Coltrane, avec tout le monde, et je cite tous les noms que je veux. Oui, ils me disent, très bien, allez-y. Et j'ai fait ce disque comme ça à New York.
Quel effet ça fait de diriger Miles Davis à 26 ans?
Ça fait un effet tout à fait impressionnant. C'est-à-dire que les copains m'ont dit, voilà, écoute, voilà, Miles, voilà ce qu'il fait. Il arrive au studio, il ouvre la porte du studio, il écoute pendant 5 minutes dehors. Si ça lui plaît...
Il rentre,
il déplie sa trompette caisse et il joue. Si ça ne lui plaît pas, il referme la porte, il s'en va, et puis quoi qu'il arrive, tu ne le reverras jamais. Alors vous vous rendez compte, moi j'avais recruté les trucs, je fais tout ça, et tout d'un coup, effectivement... J'ai commencé à répéter avec l'orchestre.
Et vous attendiez.
La porte s'ouvre et je marche dehors. Ça. Il reste quelques minutes dehors, écoutez. Je dis, non, d'un chien, je transpirais, j'avais un trac terrible. Et puis tout à coup, il est rentré, il s'est assis à sa place, il a sorti la trompette, il a joué. Puis après la première prise, il me dit, Michel, vas-y, il parlait comme ça. Il me dit, ça te plaît comme je joue? Je dis, Michel, c'est pas à moi de te dire ou de vous dire comment jouer. Il me dit, si. J'attends que tu me dises ça, car c'est ta musique. Et de ce jour-là, on ne s'est plus quitté.
Michel Legrand, dès la fin des années 50, le cinéma vous a fait les yeux doux, mais il y a une rencontre qui a été en tout point miraculeuse, c'est celle avec Jacques Demy, pour qui, en 64, vous avez composé la musique des Parapluies de Cherbourg, et en 66, celle des Demoiselles de Rochefort.
Oui.
Alors, quelle aventure a représenté dans votre vie cette collaboration avec Jacques Demy?
Écoutez, moi j'ai commencé à travailler avec Jacques dans les années 60, il avait fait un premier film, ça s'appelait Lola. Après, j'étais avec sa femme Agnès Varda et elle avait fait un film où je jouais dedans d'ailleurs, parce que comme elle n'avait pas les moyens de payer les comédiens, c'était les copains qui jouaient les rôles.
C'était pour Cléo de 5 à 7.
Voilà, Cléo. Et ensuite, Jacques, on avait fait un film ou deux ou trois avec lui, il m'a dit, écoute, voilà, moi je suis un passionné de musicaux, on va faire un musical ensemble. Et alors, bon, on cherche un sujet. Puis un jour, Jacques, il m'envoie un script qui s'appelait L'infidélité ou les parapluies de Cherbourg. Il voulait faire un film en noir et blanc. Comme il avait fait auparavant, un film normal, parler. Alors j'ai lu ça une fois, deux fois, trois fois. Et je dis à Jacques, écoute, il me semble que c'est... Pourquoi on n'essaye pas d'en faire un musical? Hein, il me dit, j'ai pas semblé très bien, on se met au travail tous les deux. Puis on fait des chansons, tout ça, ça marche pas. Je dis, ça va bien. On n'arrivait pas à souder le moment où on parlait avec le moment chanté, ni revenir au parler, ni. On se dit, ça fonctionne pas, il n'y a pas de charnière, il n'y a pas de bon. Et puis pendant quelques mois, on n'en parle plus. Puis tout d'un coup, Jacques m'appelle, il me dit, écoute. Puisqu'on a des difficultés avec les charnières, pourquoi on ne fait pas un film entièrement chanté? Comme ça, il n'y aura plus de charnières. Et là, je dis, bah, écoute, très bien, on essaie, là, on se met au travail tous les deux. Puis, j'ai écrit à peu près la moitié de l'ouvrage, tout seul, comme ça, d'après les lignes du script et de là. Et puis, c'était trop ardu, trop classique, trop ému. Et je me suis dit, non, il faut absolument que le public puisse déchiffrer ce film à la première audition. Sans ça, je dis, après, s'il faut... On n'arrivera à rien. Alors on s'est remis au travail, Jacques, et on a écrit ensemble toute la partition. En un mois, on en a loué.
Ensemble.
Oui. À chaque fois qu'il, parce que voilà, on prenait.
Il avait des talents de musicien.
Non, pas du tout. Mais on prenait les scènes qui avaient été écrites dans le script normal. Et moi, je cherchais un thème comme ça. Et puis ensuite de ça, je demandais. Alors là, il me faut 8 pieds de plus. Alors il écrivait. Et à chaque fois que je faisais une note, il mettait une syllabe de plus. Et on a tout écrit ensemble comme ça, juste du début à la fin du film. On termine. On ne sait pas ce que c'est. Pendant un an, on a auditionné devant tous les producteurs français, petits, grands, moyens, gros.
Qui refusaient de mettre le moindre centime dedans.
Sans exception. Puis, un soir, on connaissait Pierre Lazareff un petit peu, parce que Pierre Lazareff était un personnage qu'on avait rencontré comme ça dans des dîners, des soirées, deux, trois ou quatre fois. On envoie un pneumatique, ça existait encore à l'époque, on fait un long pneumatique de 4-5 pages à Pierre, en disant voilà, on a une idée, on va faire ci et ça, mais personne n'en veut. Est-ce que Pierre, est-ce que vous pourriez nous aider? Le lendemain matin, je reçois un coup de fil. Le grand Lazareff, mercredi 14h30 à mon bureau. Clouc, même pas bonjour. Alors, Jacques et moi, on s'amène au bureau de Pierre. Et voilà, il dit, écoutez, j'ai lu votre missive, j'ai pas très bien compris ce que vous vouliez faire, mais ça me paraît très sympathique. Alors, comme j'ai une très grande amie à moi qui veut devenir producteur, c'est elle qui va produire votre film et c'est moi qui paye en revoir. Et on est sorti comme ça. Et grâce à Pierre Lazareff et à son amie productrice, qui était Mac Bodard, on a pu, avec des bouts de ficelle, je me souviens très peu d'heures, on a pu faire Les Parapluies avec Catherine Deneuve et Nino Castelnuovo.
Avec des bouts de ficelle, dites-vous, un film qui a obtenu la Palme d'Or lorsqu'il est sorti au Festival de Cannes.
Oui, à notre grand étonnement. Vous savez, après un an, on a joué notre partition devant tout le monde, qui refusait catégoriquement de mettre un centime dans une aventure. Puis, écoutez, un film où les gens disent « Mais quelle heure est-il? Passe-moi le sel. Est-ce que ton foie va mieux en chantant ?» C'est ridicule. Les gens ne vont pas rester. Vous allez voir emboîter, ils vont rire. Eh bien, à notre grande surprise, nous, premiers, ça a été le premier jour à succès, le premier jour tout de suite.
Le public a immédiatement adhéré.
C'était plein le premier jour. Et je ne sais pas pourquoi. Parce que c'est vrai, bon, les Parapluies de Cherbourg, personne ne savait de quoi il s'agissait. Donc, si on faisait Notre-Dame de Paris, ou si on faisait une chose, bon, ils savent vaguement, n'est-ce pas, où il est misérable, mais là, qu'est-ce que c'est, Cherbourg, les Parapluies. Et immédiatement, et c'est un grand mystère pour nous toujours.
Alors les musiques des Parapluies de Cherbourg, et plus tard, donc 2 ans plus tard, des Demoiselles de Rochefort ont été couronnées dans le monde entier. Mais à l'époque, ces musiques très lyriques, n'est-ce pas Michel Legrand, s'opposaient à la vague rock, à la vague yéyé. En fait, vous avez donné naissance à un genre. Est-ce que je peux dire que vous avez finalement créé la chanson symphonique?
Oui, bien sûr, allez-y Isabelle, dites ce
j'y
que
vais.
Vous voulez dire, allez-y, non, mais pourquoi pas,
parce que, bon, on garde la formule.
Non mais la définition, on peut, bien sûr, non, mais avec joie.
Personne ne composait ainsi
même
à l'époque.
Nous, écoutez, même nous, il y avait quelques comédies musicales américaines qui étaient venues à Paris, qui avaient fait des bides. Alors les gens disaient, mais sur les films, ne mettez pas comédie musicale, personne ne viendra les voir. C'était même interdit, comme les musicales. Alors on avait mis, nous avec Jacques, on avait mis un film en couleur et enchanté. Enchanté en debout, parce qu'il fallait bien qu'on prévienne le public du quoi il s'agissait vaguement. Quoi. Vous voyez, c'est pour vous dire vraiment qu'on peut l'intituler comme ça nous chante. Si
un film
dire.
En couleur et enchanté. Ouais. On va se régaler les tympans avec un extrait, justement, de l'un de ces deux films, Les Demoiselles de Rochefort, Nous sommes deux sœurs jumelles.
Très bien.
Allez, sous le signe des Gémeaux, on monte le son.
Delphine, viens voir, ils sont arrivés. Ils s'installent sur la place.
Tu sais, les gosses seront jamais prêts. Faudra les faire répéter dimanche matin.
Bon, non. Tu crois?
Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous fûmes toutes deux élevées par maman, qui pour nous se priva travailla vaillamment. Elle voulait de nous faire des érudites, et pour cela vendit toute sa vie des frites. Nous sommes toutes deux nées de père inconnu, cela ne se voit pas, mais quand nous sommes nus, nous avons toutes deux au creux des reins, c'est fou. Là, un grain de beauté qu'il avait sur la joue. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Aimant la ritournelle, les calembours et les bons mots. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Nous sommes toutes deux joyeuses et ingénues, attendant de l'amour ce qu'il est convenu d'appeler coup de foudre aux sauvages passions. Nous sommes toutes deux prêtes à perdre raison. Nous avons toutes deux une âme délicate. Artiste passionné,
musicienne,
acrobate,
cherchant un homme bon.
Cherchant un homme beau. Bref, un homme idéal, avec ou sans défaut. Nous sommes deux sœurs jumelles, nées sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Du plomb dans la cervelle, mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Je n'enseignerai pas toujours l'art de l'arpège. J'ai vécu jusqu'ici de leçons de solfège. Mais j'en ai jusque-là, la province m'ennuie. Je veux vivre à présent de mon art à Paris.
Je n'enseignerai pas toute ma vie la danse à Paris.
Paris, moi aussi, je tenterai ma chance. Pourquoi passer mon temps à enseigner des pas, alors que j'ai envie d'aller à l'opéra. Nous sommes deux sœurs jumelles, mais sous le signe des Gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do. Deux cœurs quatre prunelles à embarquer à l'Egretto. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol 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 ré do.
Nous sommes deux sœurs jumelles, extrait des Demoiselles de Rochefort. La musique de ce film est née sous les doigts de Michel Legrand. Et Michel Legrand, on le retrouve dans un instant.
Il n'y a pas qu'une vie dans la vie, rend hommage à Michel Legrand. Jusqu'à 16h sur Europe 1, on se replonge dans une discussion datant du 13 juillet 2003. Michel Legrand était l'invité d'Isabelle Morizet.
Michel Legrand, deux ans après le succès inoubliable des sœurs jumelles nées sous le signe des Gémeaux qu'on vient d'entendre à l'instant, c'est Hollywood qui vous a ouvert ses portes et en très très grand, puisque vous avez composé votre première musique pour un film américain, l'affaire Thomas Crown, avec Steve McQueen et Faye Dunaway, ce qui vous a valu votre premier Oscar.
Oui, oui.
Alors j'aimerais que vous nous racontiez comment vous avez vécu cette entrée dans le sérail d'Hollywood, vous le Frenchie.
Écoutez, alors voilà, pour les parapluies de Cherbourg, on avait eu des nominations aux Oscars, trois. Meilleure musique, meilleure orchestration, meilleur je sais pas quoi, bon. En 65 ou 65. Et puis, on n'a rien eu, bon, parce que personne n'avait vu le film, c'était un petit film comme ça. C'était les musiciens, vous savez qu'à Hollywood, pour les Oscars, ce sont les gens de la discipline qui votent pour les nominer. C'est-à-dire que seulement les musiciens votent pour savoir quels sont les cinq nominés après.
Ce qui pour vous est plus logique.
Bien sûr, beaucoup plus. Je veux dire, au César, c'est une grande erreur. Quand moi, on me demande de voter pour quel est le meilleur maquilleur, comment voulez-vous que je sache? Il aurait fallu que les maquilleurs décident qu'il est les cinq meilleurs. Bon. Donc, on a été mis, bon, on n'a rien eu. Mais alors, les gens de la corporation me connaissaient un petit peu. Et puis, quand je suis arrivé à Hollywood, je n'avais aucun contrat, rien à faire. J'avais fait un petit film, une petite comédie avec Dean Martin, un petit machin comme ça. Et puis, j'avais un très très grand ami là-bas qui était Henry Mancini.
Compositeur extraordinaire.
Oui, un musicien formidable, qui m'adorait, que j'adorais. Enfin, on était vraiment très très liés. Et c'est lui qui devait faire l'affaire Thomas Crown. Et, alors, oui, il avait été engagé par Norman Jewison pour la faire. Et puis, mais il avait dit, alors maintenant, je ne peux pas, écoute, parce que j'ai un film que je n'ai pas encore terminé. Donc, je ne pourrais pas le faire. Mais, a-t-il dit, à Jewison, si tu m'écoutes, prends, il y a un jeune connard de français qui était à Hollywood. Vas-y, il a du talent, il va te faire. Et comme ça, grâce à Mancini, j'étais engagé par Norman Jewison. C'est vraiment comme ça que ça s'est passé. Alors après, le succès immédiat de ce film, après j'ai pu faire ce que je voulais, c'est-à-dire que on m'offrait tout ce que...
Et les plus grands metteurs en scène vous ont réclamé, mais avant d'évoquer cette partie de votre vie, j'aimerais savoir, la chanson générique en fait de l'affaire Thomas Crown, oui. On va le repréciser, oui. Pour nos auditeurs, c'est Les Moulins de mon cœur. Ça a été un triomphe absolument planétaire. Vous vous souvenez du moment où cette musique est née comme ça, sous vos doigts, sur le clavier?
Oui, enfin, je me rappelle très très bien. Parce qu'on travaillait avec Jewison et je dis à Norman, je dis, voilà, il me semble que sur les séquences du planeur, pourquoi on ne fait pas une chanson? Ça serait formidable. Au lieu de mettre au générique, il y a toujours la barbe et tout ça. Bon, très bien, mais il me dit, essaye. Alors, j'avais un couple d'amis que Quincy Jones m'avait fait rencontrer, qui étaient Alan et Marilyn Bergman, qui étaient des jeunes auteurs américains, formidables, talentueux. Je vais les voir. J'ai écouté, voilà, j'ai une idée, on va faire ça. On a passé une nuit ensemble. Moi, j'ai fait la musique tout de suite. J'aurais donné les textes. Le lendemain matin, le texte était fait. Le texte est sublime en anglais. Et dans l'après-midi, on va jouer à Norman, la chanson qu'il a adorée. Ouais, fort, exactement ce que... Voilà comment c'est fait, mais comme ça. Vous savez, quand on a le vrai désir, la formidable envie, que rien ne peut résister au désir de faire la chose, ça vient très vite. Je veux dire, c'est comme si le doigt de Dieu se posait comme ça sur le front des gens.
Vous ne m'empêcherez pas d'appeler ça le don, Michel Legrand.
Oui, non, bien sûr, mais je vous empêcherai pas, Isabelle. Ça, cependant, quand on veut vraiment les choses, je veux dire, quand on veut vraiment les accoucher, on les accouche, quoi. Elles ne résistent pas.
À partir de là, Orson Welles, Sidney Pollack, Joseph Losey, Clint Eastwood vous ont réclamé. L'Amérique, finalement, ne jurait plus que par la musique du petit Frenchie. J'aimerais bien savoir avec lequel de ces metteurs en scène il a été, pour vous, le plus palpitant de travailler.
Écoutez, tous, pour des raisons différentes. De même que tout ce que j'ai écrit, j'en suis sinon fier, du moins je n'en ai pas honte. On aime toujours tous ses enfants. Moi, j'ai des enfants partout et je les adore. Pour différentes raisons. Et de même que tous les metteurs en scène avec qui travaillent, il y en a qui travaillent dans le bonheur, d'autres dans la douleur, d'autres dans le conflit. Mmh. Il y en a quelques-uns. Mais toujours avec l'espoir de faire quelque chose de beau, de grand, de fort, de jamais fait auparavant. Donc c'est toujours une grande aventure.
En tout l'Amérique, Michel Legrand vous a offert donc 3 Oscars. Un pour la musique de l'affaire Thomas Crown, le second pour Un été 42, sorti en 72, et puis le troisième Oscar pour Yentl, et avec Barbara Streisand, la grande Barbara Streisand. Est-ce que vous avez été tenté de vous installer pour toujours là-bas aux États-Unis à un moment de votre vie ?
Oui, c'est-à-dire que quand je suis arrivé en 67 et que j'ai fait l'affaire Thomas Crown, je suis resté 3 ans. Et puis au bout de 3 ans, je me suis aperçu que ce n'était pas une ville pour moi du tout.
Pourquoi donc ?
Eh bien, d'abord, c'est une ville sans culture. C'est-à-dire que tout est fait pour la réussite, rien pour la connaissance. C'est très plaisant, les gens sont adorables, ils vous reçoivent sans vous connaître, ils vous aiment sans vous avoir vu. Il n'y a pas de saison, il fait toujours bon, on peut jouer au tennis tous les jours sans une goutte de pluie. Je veux dire qu'il y a des parties pratiquement tous les soirs chez les uns ou chez les autres. Il y a des musiciens magnifiques, des studios sublimes. Les instrumentistes, c'est probablement tous les meilleurs du monde sont là réunis.
Mais alors, que manque-t-il ?
Et cependant, il manque la difficulté d'être. Il manque la difficulté de faire. Tout est trop facile. Et quand tout est trop facile, on devient mollasse. On perd sa musculature et tout devient comme une espèce d'automatisme. Trop aisé, on devient trop habile, c'est-à-dire que tout à coup, rien ne vous résiste plus. 3 ans après, quand j'écrivais quelque chose, tout le monde dit « Oh, mais c'est extra !» Non, ça n'était pas. Et si on se laisse comme ça, dans ce climat, dans cette pente savonneuse, on est perdu. Je me rappelle très bien que Edith Piaf, quand je commençais à travailler pour elle dans les années 50, elle me disait « Alors toi, mon petit, bien sûr... J'avais été à New York pour la première fois. Bien sûr, alors toi, tu veux aller aux États-Unis et tout ça. » Oh, je dis oui, oui, absolument. Elle me dit, écoute, alors je vais te dire une chose, vas-y, mais écoute-moi attentivement. Elle me dit, si tu vas aux États-Unis, n'y reste pas car tu perdrais ton talent. Alors je dis, mais oui, merci, oui, bien sûr, madame. Je dis, elle est vraiment fatiguée, elle est vraiment malade, elle est vraiment pas bien du tout. Et tout à coup, je me suis rappelé de cette phrase. Elle a tout à fait raison. Et tous les musiciens, tous les créateurs, sans exception, qui restent là-bas, ils ont un talent qui glisse en pente et qui disparaît peu à peu. C'est fou. Alors je suis revenu en France et je commutais, comme on dit, dans les avions. Je faisais Paris-Los Angeles à peu près tous les mois.
Mais vous veniez vous ressourcer sur le sol français.
Oui, il fallait que je sois à Paris pour pouvoir vivre.
Le 13 juillet 2003, Isabelle Morizet recevait Michel Legrand. On se replonge dans cette conversation cet après-midi. Dans un instant, toujours sur Europe 1, Michel Legrand évoquera sa collaboration avec Barbara Streisand. Il est 15h31, il n'y a pas qu'une vie dans la vie se poursuit avec cet entretien du 13 juillet 2003. Michel Legrand se racontait au micro d'Isabelle Morizet.
Reparlons plus précisément de musique, Michel Legrand. Vous avez souvent confié que, comme le dialoguiste d'un film, vous, le compositeur, vous deviez être d'une souplesse extrême face aux demandes du cinéaste. Faire naître de l'émotion sur des images imposées, puisque c'est le travail du compositeur de musique de film, sur des images imposées. Est-ce que c'est plus dur que d'écrire des chansons ? Et qu'est-ce que vous préférez faire ?
Non, vous savez, l'invention, c'est magnifique. Que ce soit une chansonnette, que ce soit une musique de film, que ce soit une sonate, que ce soit une symphonie, l'invention est le plaisir suprême de la vie. Mais au cinéma, c'est une discipline tout à fait spéciale. Vous avez une séquence qui dure 1 minute 57 et la musique tout à coup qui vous vient pour cette séquence-là, le dialogue que vous allez raconter en musique, il vous faudrait 7 minutes pour l'exposer. Si vous écrivez une sonate, ça va durer 7 minutes, vous allez l'exposer au cinéma, il faut que ça dure 1 minute 57, pas plus. Parce que les images vous l'imposent. Cette rigueur formidable fait que vous allez devenir un compositeur sublime, peut-être, car l'imposition, c'est-à-dire que la liberté se resserre, la contrainte est telle que si vous arrivez à dire la même chose en 1 minute 57 que vous auriez dit en 10 minutes, là vous commencez à devenir un compositeur. Et c'est ce que Nadia Boulanger m'expliquait déjà, elle m'a dit, fais du cinéma car tu vas voir que là tu vas devoir distiller dans un temps imposé. Elle me dit, après, quand tu écriras une sonate ou une symphonie, impose-toi la même chose. Mon exposition va durer 37 secondes. Impose-le-toi. Et c'est formidable, car ce qui prouve tout à fait que la liberté n'existe que quand la contrainte est imposée.
Jolie formule. Michel Legrand, une musique formidable peut totalement sauver une scène de film médiocre?
Je suis pas sûr, non, je crois pas. Moi, j'ai vu des films où la musique était abominable, des scènes magnifiques, la musique était une abomination. La scène reste belle. Et j'ai vu des scènes ratées par les metteurs en scène, la musique était admirable. Ça ne sauve pas la scène. Par contre, je trouve que la musique est un second dialogue, c'est-à-dire la musique, elle parle, elle raconte, elle dit des choses. Et ça m'intéresse beaucoup.
Vous avez longtemps collaboré avec Barbara Streisand, à la fois, chose, oui. N'est-ce pas, pour le cinéma, Yentl, qui vous a valu un Oscar, et puis aussi pour ses albums. On ne travaille pas avec Barbara Streisand comme on travaille avec une autre chanteuse.
Écoutez, bien sûr que non. Chaque personne a son style, son individualité.
Mais elle, plus encore au niveau de ses exigences.
Oui, Barbara est une petite fille de 12 ans, qui a des exigences d'un monstre de 300 ans. Alors, mais toujours pour les bonnes raisons, c'est-à-dire que si tout à coup, moi je l'ai entendu traiter des gens, Barbara, comme un camionneur, enfin, dans la vulgarité la plus monstrueuse, elle insulte les gens, mais c'est toujours pour des raisons de qualité, c'est qu'elle veut mieux, elle veut plus, elle veut encore, elle veut. Quand elle n'obtient pas ce qu'elle veut, elle devient folle de rage. Simplement. Alors les gens disent, elle est impossible. Non, elle est plus que possible. Moi, je l'ai connue il y a assez longtemps. On a travaillé longtemps ensemble. On est devenus des compères, c'est-à-dire qu'on est devenus des comparses, on est devenus des complices, c'est-à-dire que tout à coup, on va faire les mêmes mauvais coups ensemble, parce que ce sont tous des mauvais coups. Par exemple, les premiers disques que vous avez avec elle, tout à coup, alors on enregistre la nuit à New York. Alors à minuit, on commence, et puis tout à coup, elle chante, on fait une prise. Alors, je dis, Barbara, c'est formidable, on fera jamais mieux. Et si on recommence. On recommence une fois, deux fois, trois fois. On faisait 19 prises. Je dis à Barbara, je vais la voir, je dis, écoute, tu sais bien que c'est la première, la meilleure. Elle me dit, oui, je sais. Je dis, pourquoi tu recommences? Pour le plaisir. Voilà, c'est ça. Alors, ce sont des caprices que moi j'aime à la folie. Parce que c'est vrai, elle peut se payer ce plaisir-là. Alors, et à chaque fois qu'elle fait des choses, tout le monde dit, elle est impossible. Non, elle n'aime que l'extrême qualité. Alors elle hurle quand elle ne l'obtient pas, sauf avec les gens. Elle sait qu'avec moi, elle va obtenir tout ce qu'elle veut. Elle sait que je suis un singe et que je connais tellement bien mon métier que tout à coup, si elle me demande n'importe quoi, que personne ne peut faire sur l'instant, moi, je vais lui délivrer sur l'instant. Alors elle en a plein la vue. Et là, on s'amuse, on joue. Bon, on joue à des jeux difficiles et dangereux quelquefois, mais ce sont des jeux formidables avec elle.
Eh bien, Michel Legrand, c'est au nom du plaisir que nous allons écouter Les Moulins de mon cœur, extrait donc de l'affaire Thomas Crown. On a évoqué tout à l'heure comment la ligne mélodique de cette chanson est née comme ça, miraculeusement, sous vos doigts. On plonge dans la musique et puis, bien évidemment, on se retrouve tout de suite après.
Comme une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau, comme un manège de lune avec ses chevaux d'étoiles, comme un anneau de Saturne, un ballon de carnaval, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures, le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur, comme un écheveau de laine entre les mains d'un tourbillon de neige, comme un vol de goéland sur des forêts de Norvège, sur des moutons d'océan, comme le chemin de ronde que font sans cesse les heures. Le voyage autour du monde d'un tournesol dans sa fleur. Tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur. Ce jour-là, près de la source, Dieu sait ce que tu m'as dit. Mais l'été finit sa course, l'oiseau tomba de son nid. Et voilà que sur le sable, nos pas s'effacent déjà. Et je suis seul à la table qui résonne sous mes doigts, comme un tambourin qui pleure sous les gouttes de la pluie, comme les chansons qui meurent aussitôt qu'on les oublie. Et les feuilles de l'automne rencontrent des ciels moins bleus, et ton absence leur donne la couleur de tes cheveux. Une pierre que l'on jette dans l'eau vive d'un ruisseau, et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Au vent des quatre saisons, tu fais tourner de ton nom tous les moulins de mon cœur.
Les moulins de mon cœur, extrait de la musique du film L'affaire Thomas Crown. Michel Legrand ce matin est mon invité, on va le retrouver tout de suite.
Tourne les moulins, tourne les aiguilles du temps. Il y a 15 ans, justement, Isabelle Morizet recevait Michel Legrand à l'occasion de la sortie de son album Michel Legrand par Michel Legrand. Dans un instant, il parlera de son travail de musicien et des comédies musicales. Cet après-midi, Europe 1 prolonge son hommage à Michel Legrand depuis 15 heures. Vous écoutez une ancienne émission d'Isabelle Morizet, datant du 13 juillet 2003. Elle recevait le musicien, compositeur, arrangeur, orchestrateur, chanteur, l'unique Michel Legrand.
Quelle promenade on effectue ce matin avec Michel Legrand qui nous a rejoint. Michel Legrand, on va parler de votre actualité. Il y a un album qui vient de sortir et qui est un véritable morceau d'anthologie. Michel Legrand, bye Michel Legrand. Cet album, il réunit, interprété au piano exclusivement et donc sous vos doigts, les plus grandes de vos meilleures compositions. Alors j'aimerais bien savoir comment on choisit 14 morceaux dans l'œuvre de toute une vie. Ces 14 enfants-là.
Oui, bien sûr, dès l'instant qu'on choisit, on se prive de plein de plaisirs, parce qu'il y en a plein d'autres comme ça qui se proposent, et on se dit, ben là, on ne peut pas les mettre tous, on ne peut en mettre que 14, on a un minutage, je veux dire, chaque disque est limité à une heure et quelques. Bon, mais finalement, vous savez, moi, comme ça, je me mets au piano, et puis ce sont les gens improvisés. Hein. Le piano seul, on est tout nu devant un piano, et vous savez, un piano, c'est un animal qui vous résiste, c'est un animal qui a des grandes dents, un clavier noir et blanc comme ça qui vous regarde, avec ses dents qui va vous bouffer. Donc, j'essaye de l'amadouer, j'essaye de le caresser pour qu'il m'aime, pour qu'il m'adopte, et puis je lance des choses, et puis ça part bien, ça part mal, et tout à coup, il y a une chose qui me déplaît pas, c'est-à-dire qu'il faut que ça me surprenne un peu. Il faut que ce soit une façon de faire que je n'ai encore jamais essayé. Le piano seul, c'est un petit orchestre en réduction. Voilà. Alors, je m'amuse avec, j'essaie de faire des choses, et puis comme j'ai une bonne technique pianistique, puisque je travaille de piano tous les jours, que Dieu fait depuis...
Tous les jours.
Depuis le commencement de ma vie, ce qui fait que je suis chez moi, c'est-à-dire que tout à coup, je finis par amadouer ce Steinway grand que sublime, qui vous parle, qui vous chante, qui vous pleure des choses.
Tous les jours, Michel Legrand, vous faites vos gammes
oui,
sur un Steinway
jours, oui.
Chez vous.
Donc, sur un Steinway, sur n'importe quoi.
Pendant combien de temps?
Au moins une heure et demie par jour. J'ai mis au point une heure et demie technique comme ça. Après une heure et demie, je peux jouer n'importe quoi. Mais je le fais tous les jours. Si je ne le fais pas, je me méprise.
La musique, effectivement, vous l'avez abordée et expérimentée au travers de tous les genres possibles et imaginables.
Pas tous.
pas encore tous. Non. Musique de film, chansons, variétés, ouais, jazz, musique classique, puisque vous avez travaillé avec, je citais au hasard, Kirite Kanawa, Placido Domingo. Ouais. Vous avez aussi composé de la musique de ballet, puisque vous avez travaillé avec Roland Petit. Quand vous dites pas tous, quel style, quel genre musical manque à votre palmarès?
Écoutez, je n'ai encore jamais passé un nombre d'années à travailler sur les comédie musicale que je veux faire maintenant. On a fait le Passe-Muraille avec Didier Van Cauwelaert il y a quelques années, qui était un grand succès. Par
exemple, non,
on le joue à Broadway en septembre. Ensuite de ça, l'année prochaine, on va faire Les Demoiselles de Rochefort au Palais des Congrès, en comédie musicale sur scène. C'est-à-dire que, oui, sur scène, avec Alain Boublil, on est en train de réécrire tous les deux, parce que Jacques Demy, hélas, n'est plus avec nous. On va théâtre, on est en train de théâtraliser ce film. Parce qu'au cinéma, il y a les gros plans. Au théâtre, il n'y a pas les gros plans. Donc, il faut modifier tout ça. Je veux dire, au théâtre, sur la scène des Palais des Congrès, vous avez une scène large qui fait 24 mètres. Vous ne pouvez pas mettre un seul personnage qui va raconter une petite histoire qui n'intéresse pas assez les gens. Cinéma, vous avez un gros plan. Elle fait tout l'écran. Vous avez toute sa tronche énorme qui vient jusqu'à vous. Au théâtre, on n'a pas ça. Donc, il faut le repenser. Il faut le réécrire. Il faut le présenter autrement pour que le film puisse passer au théâtre. Et ça, c'était un gros travail qu'on est en train de faire. Alors ça, ça prend du temps.
Là, vous parlez du synopsis, mais en ce qui concerne la musique précisément, est-ce que vous allez retravailler le livret musical?
Oui, je vais retravailler les tempos, je vais retravailler les rythmiques, je vais retravailler les orchestrations, je vais retravailler les façons de chanter, car on est maintenant en 2003. Si j'écrivais Les Demoiselles de Rochefort aujourd'hui, voilà comment je les écrirais. C'est ça que je veux présenter, voyez-vous. C'est-à-dire que ce sera la même partition, mais elle aura une autre saveur, une autre couleur, elle bondira de façon différente. Voilà ce que je suis en train de faire.
J'imagine que ce spectacle a un avenir international, Michel Legrand.
Si c'est un grand succès à Paris, on pourra après l'exporter à Londres, à New York, tout ça. Mais il se peut que les gens n'aiment pas ça. Vous savez, on ne sait jamais du tout, on ne sait jamais. Si jamais c'est un succès, je pense qu'on va continuer, on le donnera dans d'autres pays.
Vous, récemment, quelle est la comédie musicale qui vous a vraiment enthousiasmé?
Écoutez, il y en a plusieurs que j'ai vues à New York, bien sûr, parce que je vois tout ce qui se produit
plutôt
là-bas.
Plutôt à New York?
Oui, plutôt à New York, à Londres, oui. J'en ai vu, je déteste, et j'en ai vu quelques-unes que j'adore. Il y a un compositeur, auteur américain que j'admire beaucoup, qui s'appelle Stephen Sondheim, qui est un écrivain américain, c'est lui qui a écrit les lyriques de West Side Story sur la musique de Bernstein. C'est lui qui, alors maintenant, il écrit la musique et les paroles lui-même. Donc, il a écrit, il y a eu un revival, c'est-à-dire qu'ils ont refait une nouvelle production d'un spectacle, lui, qui s'appelle Into the Woods, dans la forêt, et qui est magnifique, que j'ai vu là, il y a 3 semaines, quand j'étais à New York, sublime, très beau, voilà mon dernier souvenir.
Et en France, Michel Legrand?
Oui, en France, c'est une autre affaire, parce que les comédies musicales françaises comme Notre-Dame de Paris, comme Roméo et Juliette.
Les 10 commandements.
Oui, c'est ça. Je n'ai pas tout vu, mais j'en ai vu 2 sur les 3. Et ce ne sont pas vraiment des musicaux pour moi. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de dramatisation. Si vous voulez, c'est une accumulation. Ce sont 17 chansons mises bout à bout, avec un fil conducteur des plus vagues, hein, je veux dire des plus branlants, des plus réduits. La mise en scène, je l'ai pas vue. L'histoire, je ne sais pas très bien ce qu'on me raconte. Je veux dire, la chorégraphie, il n'y en a pas. Les décors, c'est n'importe quoi. Mais ce qui est intéressant, ce sont les chansons éventuellement. C'est-à-dire que je sais que le public parisien a adopté certaines de ces chansons dans ces spectacles-là et va entendre des chansons. Mais par exemple, si vous faites ça à New York ou à Londres, on va vous jeter, parce qu'ils sont habitués, oui, parce qu'ils sont habitués à une histoire, une dramatisation avec un début, des émotions, des gens qui. Mais là, dans ce qu'on fait à Paris, c'est un tour de chant camouflé en musical. C'est très différent. C'est quelque chose d'autre, mais c'est différent. Et ce n'est pas cela qui me passionne vraiment. Moi, j'aime la dramatisation, j'aime la théâtralisation des œuvres.
Et nous, on aime réentendre le parler vrai de Michel Legrand, car avec la bienveillante Isabelle Morizet, on se raconte, on se confie, on fait tomber les masques. Sa voix, parfois et bien souvent. Cet entretien du 13 juillet 2003 se poursuivra dans un instant sur Europe 1. Il s'est éteint la nuit dernière à l'âge de 86 ans. Hommage au musicien, compositeur, arrangeur Michel Legrand cet après-midi sur Europe 1. Une heure en tête-à-tête avec Isabelle Moïse. Un souvenir qui nous ramène au 13 juillet 2003. On arrive au bout de cet entretien.
Vous nous avez confié tout à l'heure que vous alliez composer un album pour Shirley Horn, mais est-ce qu'il y a une autre grande voix en 2002, une voix de renommée internationale pour laquelle vous aimeriez travailler? Est-ce que Céline Dion, par exemple, vous a déjà fait signe, Michel
Legrand?
Non, jamais.
On s'est rencontrés parce qu'on se connaît un petit peu. Bon, on s'est rencontrés ou dans les studios ou dans des choses de télévision comme ça. On s'aime bien, on s'embrasse. Moi, j'aime beaucoup, beaucoup comme elle chante. Je trouve qu'elle chante vraiment formidablement. Elle m'a dit, faut qu'on travaille ensemble un jour. Bon, mais jusqu'à maintenant, elle ne m'a jamais rien demandé. Elle ne m'a pas supplié de lui écrire des chansons. Elle ne m'a rien demandé encore. Peut-être elle le fera, peut-être elle ne le fera jamais. Peu importe, en tout cas, sa carrière va très bien.
Si elle vous faisait signe, vous aimeriez la faire chanter dans quel registre?
Je ne sais pas. Je ne sais pas encore, je n'y ai pas songé. Mais si je devais le faire, j'espère trouver quelque chose d'original.
Il y a cette note sur la gamme. Finalement, quelle est la plus jolie ligne mélodique à vos oreilles qui ait jamais été composée, Michel Legrand?
Il y en a plusieurs. Il y en a même beaucoup.
Avec ces sept notes.
Oui, il y en a beaucoup. Mozart a eu des instants de divin, des instants de divinité. Il y a quelques mélodies de Mozart qui sont probablement les plus belles choses qu'on a écrites. Bach a eu aussi quelques mélodies divines qui sont des choses absolument inoubliables. Et puis, dans la chanson, il y a aussi quelques mélodies absolument sublimes.
Comme,
je pense à la chanson de Kurt Weill qui était dans l'opéra de Katsu. Ces trois notes magnifiques. Il y a aussi les feuilles mortes de Prévert et Cosma. Il y a des choses comme ça qui sont d'une simplicité, ce qu'il y a de plus difficile à faire.
Ben moi, je vous propose une autre mélodie.
Laquelle?
Figurez-vous qu'elle est signée Michel Legrand.
Ah,
elle a pour titre La valse des lilas.
Ah oui, ça.
Et c'est avec cette chanson-là qu'on va se quitter.
Isabelle, à bientôt.
À bientôt.
On ne peut pas vivre ainsi que tu le fais, d'un souvenir qui n'est plus qu'un regret, sans un ami et sans autre secret qu'un peu de larmes. Pour ces quelques pages de mélancolie, tu as fermé le livre de ta vie et tu as cru que tout était fini. Mais tous les lilas, tous les lilas de mai n'en finiront jamais de faire la fête au cœur des gens qui s'aiment. Tant que tournera le temps jusqu'au dernier printemps, le ciel aura 20 ans, les amoureux en auront tout autant. Bitterly, one duty dear, oh, and dear, oh, but and alone, one by window, but dear, oh, dear, oh, but dear, oh. Tournera le temps jusqu'au dernier printemps. Le ciel aura, le ciel aura 20 ans, les amoureux en auront tout autant.
La valse des lilas par Michel Legrand.
Et ainsi s'achève cet entretien dans lequel Michel Legrand évoquait son parcours de musicien, un hommage que nous voulions vous proposer en raison de la disparition dans la nuit de vendredi à samedi du musicien, du grand compositeur. Cette émission datait du 13 juillet 2003 et n'hésitez pas à consulter d'autres entretiens sur europe1.fr. Isabelle Morizet reviendra samedi prochain dès 15h et je vous laisse sur ces quelques notes du concerto des Demoiselles de Rochefort.